Nous allons voir dans cet après-midi trois choses, ce sera quelque chose de très simple, trois choses indispensables à notre marche chrétienne, trois choses qui font que nous pouvons nous trouver là cet après-midi et nous pouvons vivre ce que Dieu a prévu que nous vivions avec lui. Et ça se passe dans le livre des Hébreux. Nous trouvons ces trois versets, je crois que les trois on les connaît par cœur, chacun d'entre eux, mais qui nous montrent chacun pour leur part un aspect indispensable dans notre marche chrétienne. Hébreux chapitre 9, verset 22, ça sera le premier verset. Les trois choses indispensables, c'est simple, le sang de Jésus, la foi et la sanctification. Je ne sais pas si vous commencez à voir à peu près où c'est qu'on va. Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit ceci, « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. » Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Première chose indispensable pour la vie chrétienne, le sang de Jésus qui a coulé. Pour nous, Français, on n'a plus trop habitué à voir du sang qui coule sur tous les animaux. Tout ça, ça se passe dans des abattoirs, etc. C'est bien caché pour qu'on ne se rende plus compte de ce qui arrive. Les personnes qui habitent à la campagne, peut-être le savent un peu plus, ceux qui élèvent eux-mêmes les animaux, ils sont au courant de comment ça se passe. Mais nous, à la télévision, les publicités, c'est pas ça qu'on nous montre, hein, vous êtes d'accord? On nous montre tout sauf ça, les bons emballages dans lesquels la viande elle est, mais on nous montre pas comment la viande est abattue, l'animal est abattu, etc. Mais pour les Hébreux, c'était quelque chose qui était monnaie courante. Et je pensais à ce moment en particulier, quand ils étaient dans le pays d'Égypte, encore esclaves, et qu'il y a la 10e plaie qui est arrivée. Vous vous souvenez, c'est quoi la 10e plaie? C'était ce moment où l'ange de la mort est passé par-dessus tout le pays d'Égypte et qu'il a tué les premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué les premiers-nés des Hébreux? Est-ce que c'est parce que seulement Dieu avait choisi les Hébreux? Pourquoi est-ce qu'il les a épargnés? À cause du sang qui était sur les linteaux des portes. À cause de ce sang qui était là. Et je me réfléchissais un instant. Il y a plusieurs plaies qui sont arrivées et Dieu a permis que dans chacune de ces plaies, ça touche seulement le peuple égyptien, mais ça ne touche pas les Hébreux. Mais pourquoi alors est-ce qu'il fallait que, à ce moment-là, ils se protègent en mettant du sang sur leurs portes? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte que la plaie ne touche que les Égyptiens, encore une fois? Est-ce qu'il aurait pu le faire, le Seigneur? Bon, quand on le connaît, on sait que ce n'était pas un grand problème pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu que les Hébreux soient... fasse cette chose pratique simplement de mettre du sang d'un pauvre agneau sans défaut sur le linteau de leur porte pour montrer que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. À cette époque-là dans le pays d'Égypte, il n'y avait pas la loi encore, il n'y avait pas tous ces sacrifices qui étaient demandés pour le pardon des péchés. Il y a bien sûr certaines personnes comme Abraham qui avaient offert par eux-mêmes des sacrifices. Mais ce n'était pas une règle encore. Et Dieu voulait, dès à présent, dès le moment où il était dans cette réalité de l'esclavage et prêt à être libéré, il voulait qu'il y ait cette réalité qui s'impose à son esprit, cette vérité que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et cet après-midi, combien nous avons besoin de serrer cette parole dans notre cœur. Je sais qu'on connaît tous ce verset. Mais combien on a besoin de le réaliser encore davantage, non seulement de le réaliser avec notre intelligence, mais que véritablement Dieu puisse nous révéler cet après-midi ce verset et l'imposer à notre cœur. Le sang de Jésus est indispensable parce que les hommes n'ont pas un bon fond. On entend souvent des gens qui disent « mais oui, mais tout le monde a un bon fond, mais c'est à la société qui transforme et qui fait en sorte que les hommes deviennent méchants, mais sinon à la base ils seraient tous gentils ». Combien on sait que c'est pas vrai? La Bible, d'ailleurs, nous va dans ce sens de dire qu'ils sont tous pécheurs, les hommes. Ils sont pécheurs et risquent la mort. Ils ont besoin de changer. Nous avons tous eu besoin de changer si nous avons déjà fait cette démarche, mais nous avons tous besoin de changer radicalement de cœur. Et on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ça a été rappelé, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Celui qui se confie soit en lui-même, soit dans les autres, il n'arrivera jamais à être libéré du péché. Mais celui qui se confie dans le Seigneur Jésus, celui qui se confie dans ce sacrifice merveilleux, celui-là peut voir son cœur totalement transformé. C'est pour ça que le sang de Jésus, c'est capital. Pour être pardonné, C'est possible seulement avec l'effusion du sang de Jésus. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ça a été rappelé par les divers chants, soit que l'on a chanté, soit que l'on a écouté. Jésus a versé son sang à la croix pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions être purifiés. Quand on lit le livre des Hébreux, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu en entier, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué, mais il dit des choses merveilleuses. Le verset 14 du même chapitre 9, regardez ce qu'il est dit par rapport au sang de Christ. « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Le seul moyen que notre conscience puisse être purifiée, c'est que le sang de Jésus soit appliqué à notre cœur. Bien sûr, ça a été rappelé aussi, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Où par la foi, je saisis la réalité que Jésus s'est sacrifié pour moi. Et le but de tout ça, c'est pas seulement que notre cœur soit transformé, mais c'est qu'on puisse en plus servir le Dieu vivant. Regardez chapitre 10, verset 18, juste après, il est dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il est demandé ? Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience encore une fois, et le corps lavé d'une eau pure. Le sang de Jésus est indispensable pour pouvoir être pardonné. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de cœur purifié. Sans effusion de sang, il n'y a pas l'accès à la présence de Dieu. Et bien sûr, c'est pas n'importe quel sang. Ça ne sert à rien que nous-mêmes, on puisse donner notre vie en sacrifice parce que nous sommes tous pécheurs et que ce sacrifice n'amènerait rien. Et ça ne changerait rien au monde. Mais le sang de Jésus qui a coulé était pur, innocent. Jésus n'a jamais dit une parole de travers. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais fait quelque chose de mal. Il a toujours été prêt à tendre la main vers celui qui était affaibli, toujours prêt à guérir celui qui était malade, toujours prêt à tendre la main vers celui qui se perdait dans sa religion même. Mais c'est celui-là qu'on a choisi plutôt que Barabbas, le méchant brigand, pour être crucifié. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et les promesses de la parole de Dieu, elles sont pour tous ceux qui confessent leurs péchés, qui saisissent que sans le sang de Jésus, oui, il n'y a rien qui peut arriver dans nos vies. Qu'est-ce qui se serait passé si le Seigneur Jésus n'avait pas fait de sacrifice? On ne serait pas là cet après-midi. Je ne sais même pas s'il y aurait un local ici qui serait une église. Mais parce que ça arrivait, nous sommes réunis. Et je sais que ce n'est pas seulement ici, dans plusieurs endroits de Toulouse et plusieurs villes de par le monde et partout où des hommes et des femmes craignent le Seigneur et ont vécu cette expérience du cœur qui est lavé par le sang de Jésus, il y a des hommes qui ont envie de louer le Seigneur et de se rassembler. Et je pensais à ces choses tellement, on va dire, basiques. On a l'impression que c'est basique. Mais on vit dans une époque où on n'insiste pas trop sur la croix. Alors bien sûr, dans notre église, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de faire. Vous avez peut-être remarqué, hein. Mais en tout cas, c'est comme un feu qui est là dans notre cœur, qui brûle, parce qu'il y a tellement de déceptions. Je suis allé dans des églises il y a plusieurs mois en arrière, et j'étais tellement attristé de voir des gens qui étaient là, qui célébraient le Seigneur. C'était merveilleux, la louange, la musique, tout ce que vous voulez, les gens qui priaient, et pas une prière qui disait « merci pour la croix ». Pas une fois, quelqu'un a dit « Seigneur, merci pour ton sacrifice ». Tout le monde disait « merci pour la vie, merci pour l'amour, merci pour la paix, merci pour la joie ». Et c'est vrai que ces choses existent, il ne faut pas non plus dire que l'inverse. Mais elles ne sont possibles que parce que le sang de Jésus a coulé. Et combien c'est important de se rappeler ces choses. Même à la Sainte-Seine, des fois j'ai vu ça. À la Sainte-Seine, on n'ose plus trop parler. On a tellement lu les versets d'1 Corinthiens 11, par exemple, où on connaît par cœur presque le verset qui est lu. Et donc, on essaie de trouver d'autres versets, mais ça ne correspond plus du tout au sacrifice de Jésus. Et on essaie, ah, c'est sûr, il y a des petites anecdotes, il y a des témoignages, il y a des belles choses, et qui sont encore une fois pas mauvaises. Mais on oublie de parler de la croix. Est-ce qu'à la Sainte-Seine, ce n'est pas le meilleur moment, justement, de parler de la croix? Comment est-ce qu'on peut apprécier la résurrection de Jésus, le fait que Jésus est vivant, le fait que Jésus revient bientôt, sans se souvenir qu'un jour il a donné sa vie pour nous? Comment est-ce qu'on peut vraiment l'apprécier? Est-ce qu'on peut vraiment le réaliser sans l'effusion du sang de Jésus? Nous n'aurions pas pu vivre le pardon et les conséquences du pardon, tout ce qui suit le pardon de Jésus. Et je me souviens que de ce moment où je suis revenu au Seigneur, et où vraiment le sacrifice de Jésus m'est apparu comme si c'était la première fois que je le réalisais. Je me souviens cette époque où il ne se passait pas une semaine sans que je supplie Dieu à genoux en disant « Seigneur, montre-moi encore ta croix, révèle-moi encore ton sacrifice ». Et je me souviens que les gens de l'Église qui étaient là et qui ils pensaient qu'on était un peu extrémistes dans nos idées avec les quelques jeunes, on disait « Mais c'est vrai, combien c'est important de venir jour après jour, et comme si on se reconvertissait jour après jour, comme si on redonnait notre cœur au Seigneur jour après jour. » Et il y en a, ils disaient « Mais vous en faites un peu trop là, il faudrait vous calmer un petit peu. » Et puis on a lu un livre, c'est le pasteur Finney qui a existé, je crois que c'est au 18e ou 19e siècle, et il a écrit une petite citation comme ça que j'ai notée parce qu'il a dit, c'était un spécialiste des réveils, il a vécu des réveils fabuleux, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont converties sous son ministère. Je pense qu'il était un petit peu à même de pouvoir donner quelques conseils. Il a dit, un réveil ne peut perdurer si les chrétiens ne se convertissent fréquemment, ne se reconvertissent fréquemment, si les chrétiens ne sont pas brisés devant le sacrifice de Jésus, semaine après semaine. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'endurcir. À un moment donné, ils vont prendre un pli. À un moment donné, ils ne vont plus avoir ce cœur tendre qui est saisi par la présence de Dieu et qui permet à Dieu de se manifester dans l'individu. Et combien je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir fait découvrir ces choses alors que je suis revenu à lui. Après avoir vécu quelques années dans une religion évangélique, vous savez qu'il y a une religion évangélique? Souvent, on accuse d'autres religions chrétiennes, mais on oublie qu'il peut y avoir une religion évangélique. Moi, je l'ai vécu. Mais quand on réalise avec vérité le sacrifice de Jésus, alors notre cœur, il peut qu'être brisé. Et je vous pose la question, quand est-ce la dernière fois que vous avez demandé au Seigneur de vous révéler son œuvre à la croix à nouveau? Peut-être que c'était ce matin au moment de la Sainte-Seine, pour ceux qui étaient là. Peut-être que c'était hier soir dans votre culte personnel ou ce matin dans votre culte personnel, peu importe. Peut-être que c'était plus loin, peut-être que c'était la semaine dernière. Peut-être que c'était il y a un mois. Peut-être que c'était il y a des années au moment où vous êtes convertis. Est-ce que ce n'est pas important, frères et sœurs, de revenir à cette simplicité de l'Évangile que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon? Hier, on était dans un moment de recherche dans le Saint-Esprit et M. Go en a parlé, mais c'était quelque chose qui s'était imposé vraiment sur notre cœur à Jonathan, moi-même. Cette réalité qu'il y a des gens qui cherchent le baptême dans le Saint-Esprit, qui veulent faire des progrès avec Dieu, mais qui oublient de revenir à la croix pour déposer tous leurs péchés, pour dire au Seigneur, avant que tu puisses venir me remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, je veux d'abord purifier mon cœur par ton sang. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas l'ordre normal des choses? Et je me souviens d'une personne en particulier qui n'est pas là cet après-midi, mais qui est venue et qui a confessé quelque chose. Et c'était clair que dans ce qu'elle a confessé, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur une personne comme ça. Il fallait d'abord qu'elle abandonne. Et combien c'est important. Combien on a besoin de revenir à cette réalité que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et j'aime ce verset de 1 Jean qui dit que si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il est dit ? Alors le Seigneur met un moment à réfléchir s'il va nous pardonner, c'est ça? Non, il nous les pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous vous souvenez de ce verset? C'est 1 Jean chapitre 1, verset 9. Et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez même au verset 7, il y a quand même cette condition qui est là. Si nous marchons
dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, on peut être chrétien et revenir dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, je veux que tu me révèles encore une fois ta croix, je veux y déposer à nouveau mon péché. » On ne veut pas être des gens qui sont continuellement en train de regarder le passé et de pleurer parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, mais on veut être quand même des gens qui y déposent leur péché. Toutes les fois où il y en a besoin, toutes les fois où le Seigneur nous le demande de le faire, parce que nous voulons vivre pas une religion évangélique, nous voulons vivre la réalité de la vie spirituelle avec le Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous donne une autre chose indispensable et qui est totalement complémentaire, parce que l'effusion de sang, c'est pas nous qui l'avons faite. C'est Jésus qui l'a faite. Maintenant, c'est ce que Dieu nous demande. Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a la foi dans le sang de Jésus ? Deux choses indispensables. La foi, c'est l'homme qui l'a, mais qui l'applique à quelque chose en particulier. Souvent, les gens pensent que la foi, c'est un don divin. C'est quelque chose que Dieu donne et qu'on n'en est pas maître. Certains sont choisis, ils ont la foi, et d'autres, et bien, tant pis pour eux, ils ne l'ont pas. Mais la foi, c'est quelque chose qui est naturel dans le cœur de l'homme. Sauf que c'est l'objet de la foi qui est différent. Même un athée, il a la foi. Est-ce que ça vous étonne ? Mais c'est vrai, il a la foi que Dieu n'existe pas. Mais est-ce qu'il va être sauvé avec cette foi-là ? Bon, mais non, parce que la foi qui sauve, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est pas seulement la foi en Dieu d'ailleurs, c'est la foi que Dieu a envoyé son Fils verser son sang pour notre péché. C'est ça qui sauve. Et quelle que soit notre religion, si on a cette base de notre foi, eh bien on sera sauvé. C'est pour ça qu'au ciel, il n'y aura pas que des chrétiens, des ADD de Toulouse-Saint-Agne. Il y aura, et merci Seigneur que ça soit le cas, il y aura beaucoup d'autres chrétiens, seulement si, ils ont confessé le nom de Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Amen. Est-ce que ce n'est pas réjouissant quand même ? Et voilà ce qui se passe. Quand la foi est associée au sang de Jésus, il y a le salut qui jaillit. Mais souvent, dans notre époque, on est dans un moment où on a des mauvaises définitions de la foi. Et la foi, ce n'est pas justement de seulement croire que Dieu existe. Il y a des milliers, des milliards même de gens qui croient que Dieu existe. Il y en a qui croient qu'il y a une force supérieure au-dessus de la terre qui a créé l'univers. Il y en a qui croient que le Dieu ne s'intéresse plus à ses créatures. Il y en a qui croient que Dieu il s'intéresse de loin et qu'il faut mériter qu'il s'intéresse à nous, etc. Il y a toutes sortes d'idées qui sont là. Mais la foi, c'est pas ça. La foi de la Bible, en tout cas, c'est pas ça. La foi, c'est croire et c'est faire quelque chose. La foi, c'est croire et agir de manière concrète dans notre vie. Là, ce qu'il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et il faut qu'il croie aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que la personne qui a la foi dans ce passage, elle a la conscience que Dieu existe, mais elle va agir en recherchant Dieu et en faisant ce que Dieu demande, en recherchant quelle est la volonté de Dieu, en lisant sa parole, et ça va avoir une influence dans sa vie. La foi toute seule, de manière théorique, que Dieu existe, ça ne change rien. Mais la foi véritable que Dieu attend de nous, c'est cette foi qui se met en action, qui est vue. Quand on voit le passage d'Hébreux 11, tout le chapitre, vous le connaissez par cœur, j'avais déjà pris une fois en faisant le listing de toutes les actions que les hommes ils ont fait par la foi. Vous savez, c'est tous les héros de la foi. Il y a Abel, il y a Enoch, il y a Noé, toutes sortes de personnes. Noé, par exemple, sa foi s'est manifestée dans le fait qu'il a créé un bateau. Avec des outils. Est-ce qu'il faut beaucoup de foi pour construire un bateau ? Mais ça dépend du contexte. Parce que moi, je peux me mettre à essayer de faire un bateau, j'y arriverai pas, c'est pas sûr. Mais si Dieu m'a pas dit... Là, c'était quand même quelque chose de fou. Il le faisait en plein milieu des terres. Et un bateau immense pour contenir toutes sortes d'animaux. C'était un projet fou. Mais il y avait une parole de Dieu. Et il fallait la foi pour faire quelque chose de pratique. Ce que je veux expliquer, c'est que la foi, c'est pas seulement quelque chose qui se passe dans le cœur, mais c'est quelque chose qui se manifeste autour de nous. Il y a des versets qu'on connaît bien, qui, par exemple, vous connaissez Jean 3,16. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui croit ? Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, qu'est-ce qui se passe ? Il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez que dès l'instant où je commence à croire, il y a quelque chose qui se prend place. Je ne suis plus sous la condamnation, j'ai la vie éternelle. J'ai cité plein de versets. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Il y a quelque chose qui se passe quand la foi, elle s'attache à la vérité de la parole de Dieu. Il y a un produit qui en résulte. Quand la foi s'attache au sang de Jésus, eh bien forcément, il y a la repentance qui prend place. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Seigneur, je confesse mon péché, je confesse que jusqu'au moment où j'étais mon propre maître, j'ai gaspillé ma vie. Mais Seigneur, je veux que tu sois maintenant mon maître. La conversion, tout ça, ça prend place. C'est ce qui résulte de notre foi attachée à la vérité de la parole de Dieu. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui se repent, ça se voit. Parce qu'il y a les fruits de la repentance. Quelqu'un qui se convertit, ça se voit. Non pas parce qu'il crie « je suis converti », mais parce qu'on voit que tous les jours, il est dirigé par son Seigneur. Il y a la marque de l'empreinte de son Seigneur sur sa vie à cette personne. La foi, c'est cette confiance en Dieu, c'est cette conviction profonde que la parole de Dieu, elle est vraie. Et c'est l'obéissance qui l'accompagne par la suite. C'est la foi, ça se voit dans les actes. Quand Jésus, il a vu arriver un paralytique avec les quatre amis descendre du toit, qu'est-ce qu'il est dit ? Il a vu leur foi. Pourtant, est-ce que c'était visible ? Mais c'était pas visible parce que c'est dans le cœur, mais ça s'exprime. Marc 16, verset 16, vous connaissez ce passage ? Celui qui croira et qui sera, qu'est-ce qu'il doit faire, celui qui croit ? Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On est d'accord de dire que ce n'est pas parce que la personne se fait baptiser qu'elle est sauvée. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais le baptême, c'est cette marque de l'obéissance, de la foi de la personne. Celui qui croit, il croit que Jésus a ordonné aussi de se faire baptiser selon les Écritures, et alors il se fait baptiser pour obéir à la parole. Et parce qu'il est dans ce processus d'obéissance, alors le Seigneur va le sauver aussi. La Bible nous dit de travailler à notre salut. Toutes sortes de passages, je pourrais vous citer une liste longue comme ça. Et on pourrait passer tout l'après-midi à voir tous les passages. Regardez-les à la maison. Toutes les fois où le Seigneur dit à celui qui croit, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que celui qui croit, ce n'est pas seulement intellectuel, je le répète. Celui qui croit, il y a un devoir aussi derrière, de progresser. Il y a un devoir de croissance. Il y a une espérance, un horizon nouveau qui s'ouvre devant la personne qui met sa foi dans le Seigneur. Je vous donne un dernier exemple qu'on a cité hier. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir, qui ça ? Ceux qui croiraient en lui. Vous voyez que on peut avoir la foi en Jésus et en être arrivé à un certain point où notre péché est effacé, mais le programme qui nous attend avec le Seigneur, il est long. Il est aussi long que le temps de notre vie, de toute façon. Parce que le Seigneur aime s'occuper de nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme j'aime ce verset. Et moi, même si j'ai déjà été baptisé dans cet esprit, je le prends pour moi. Je vous en laisse un peu si vous voulez, mais je prends une grande partie pour moi dans ce verset. Non, le Seigneur y partage avec tout le monde. Est-ce que on n'a pas besoin cet après-midi que des fleuves d'eau vive coulent encore dans notre cœur pour toucher ce monde ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de vivre ces temps de repos ? Allez, un dernier passage, j'avais dit un dernier, mais j'insiste sur celui-là. Hébreux chapitre 3, il nous parle de cette réalité que celui qui croit, il accède au repos, et justement celui qui ne croit pas, il est dans cette réalité qu'il ne peut pas accéder au repos. C'est exactement ce qui est dit. Hébreux chapitre 3, verset 18. À qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? À qui ? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Et regardez ce qu'il est dit dans ce verset. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si j'ai la foi dans le Seigneur, alors automatiquement il y a un repos dans lequel je peux rentrer dans la présence de Dieu. Et ça me rappelle cette époque justement où j'étais dans ma bonne petite religion évangélique et que je trouvais des excuses pour pas aller aux réunions parce que j'avais beaucoup d'études à faire et beaucoup de travail à la maison. Mais c'était des choses que je savais pertinemment dans mon cœur que c'était des excuses que je recherchais. Et alors que j'étais fatigué de la semaine, eh bien, je préférais aller me reposer dans la maison, et à ce moment-là, mon corps était reposé, mais mon cœur, lui, il n'était pas en paix avec Dieu, parce que je fuyais. Et Dieu le sait, ça, quand on fuit. Dieu, il connaît nos cœurs. Et puis un jour, toutes sortes de circonstances, ça prendrait une heure, je ne sais pas si vous m'accordez une heure de plus, je ne pense pas, mais ça prendrait une heure pour vous raconter tout ce qui s'est passé, comment Dieu a permis d'en arriver là, un jour. J'étais le vendredi soir, là, c'était la fin de la semaine, j'étais fatigué de la semaine, j'avais mal à la tête, j'en pouvais plus, tout ce que vous voulez. J'avais toutes les meilleures excuses du monde. Et puis j'ai eu dans mon cœur vraiment cette envie d'aller à la réunion. On avait la réunion de jeûne le vendredi soir. Et je suis allé à la réunion, il y avait la réunion de prière avant. J'y suis allé et j'ai expérimenté vraiment que quand on fait quelque chose, simplement par la foi, quand on s'attend au Seigneur, de manière toute simple, le Seigneur, il nous renouvelle. Et toutes les fois, par la suite, où je suis allé à la réunion, alors que j'étais fatigué, j'ai toujours été renouvelé, j'ai toujours été restauré, et je me suis mis à aller à toutes les réunions que je pouvais aller, et je faisais le calcul, et il n'y avait pas un jour, quasiment, s'il n'y avait que le mercredi, c'est presque comme maintenant, j'avais un planning aussi chargé que maintenant, d'un point de vue des réunions, parce qu'il y avait toujours quelque chose. Et c'était tellement bon d'aller dans la présence de Dieu et pas se dire « mais je vais pas y aller, je suis fatigué, il faut que j'arrête, il faut que j'écoute mon corps un petit peu, il faut que je prenne du repos ». C'est vrai qu'on est dans une société où on nous pousse tous à prendre du repos, à faire attention à nous. Bien sûr qu'il faut le faire un petit peu quand même. Mais quand on le fait plus que d'obéir au Seigneur, est-ce que vous croyez que le Seigneur il le voit pas ? Et quand, ce que je vous parle, c'est, j'étais pas pasteur. J'étais même pas ancien, j'étais rien du tout, j'étais un simple chrétien. Mais c'est là que le Seigneur a choisi de me former. Et je crois aussi que ce que nous faisons quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans ces petits moments, dans ces moments où il n'y a que Dieu qui nous voit, je crois que c'est des choses que le Seigneur regarde. Et je crois que si par la suite il a pu m'appeler, c'est parce qu'il avait vu ça. Cet après-midi, je ne suis pas là pour me glorifier aucunement, parce que je sais pertinemment que sans l'aide du Seigneur, je ne pourrais pas me tenir devant vous cet après-midi. Mais c'est pour vous encourager. Il y a un repos qui vient parce qu'on a la foi. Et même s'il y a la fatigue physique, mais qu'il y a la foi, on peut être dans le repos du Seigneur. Plutôt que de se cacher derrière des excuses, plutôt que de manifester finalement notre incrédulité. Il vaudrait mieux qu'on vienne dans la présence de Dieu. Je ne dis pas de venir à toutes les réunions, bien sûr, vous comprenez, ce n'est pas ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu toutes les fois où j'allais devant le Seigneur, avec foi, avec cette espérance que le Seigneur allait me renouveler, le Seigneur l'a fait. À chaque fois, il n'a pas manqué. Il n'a pas dit un jour, « Ah, mais aujourd'hui, je suis trop occupé, je ne vais pas le renouveler. » Non, parce que ça dépend de notre foi. Et notre foi, c'est quelque chose qui se voit dans le pratique, dans le concret. Cet après-midi, nous avons le choix. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons le choix soit d'être incrédule, soit d'avoir la foi. Et bien sûr, ça nous concerne tous, chacun à notre niveau. quel que soit le niveau où nous en sommes avec Dieu, nous avons besoin de marcher par la foi. Et pour ce que le Seigneur va me demander aujourd'hui, le Seigneur ne va pas le demander la même chose à Jonathan ou à chacun d'entre nous. Vous comprenez que c'est quelque chose de différent. Mais par contre, ça va nous demander de la foi. Ça va nous demander de mettre notre foi en Dieu. Ça va nous demander d'expérimenter de manière concrète et pratique que Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Et je finis avec ce dernier verset dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Je crois que ce dernier verset, c'est ce qui fait vraiment la différence entre une foi qui pourrait s'appuyer que sur les expériences et la foi véritable que Dieu il attend de chacun de nous. Parce qu'on peut faire de belles expériences, on peut avoir des prières exaucées, on peut vivre des belles choses simplement par la foi. Mais le Seigneur, il attend encore plus de nous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous voulez voir Dieu ? Est-ce que vous voulez voir Dieu un jour dans le ciel ? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça, qu'on veut le voir. Est-ce que vous voulez voir surtout Dieu sur la terre se manifester au travers de vous ? Est-ce que ce n'est pas ça les témoins ? Parce que le Seigneur Jésus nous remplit de son esprit pour que nous puissions être ses témoins. Mais le témoin, c'est celui qui voit ce que Dieu fait. Est-ce que nous voulons voir Dieu ? Alors il faut marcher dans la sainteté. Il y a cette sanctification, on est d'accord que Jésus nous a acquises par son sang, il nous a donné une nature sainte. Maintenant, nous pouvons être sauvés. Mais il y a cette sanctification qui est le fruit de notre travail à nous, par l'aide, bien sûr, l'assistance du Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous conduit à faire des progrès dans cette sainteté. Je pensais à cette petite histoire que j'avais lue. C'était un homme qui demandait à un roi oriental comment pouvoir éviter les tentations. Et le prince, il commence à lui commander quelque chose. Il lui dit, tu prends ce vase et tu traverses toute la ville. C'était le jour du marché, donc il y avait le bazar partout. Et il lui a mis deux gardes et il lui a dit, si tu verses une seule goutte par terre, tu le paieras de ta vie. Et les deux gardes, ils étaient là avec un sabre qui le serrait de près. Et le gars, il a commencé à marcher, alors il marchait tout doucement avec son vase dans les mains et rempli d'huile. Et surtout, il essayait de ne pas renverser. Et puis, il a réussi à éviter l'un, à éviter l'autre, un animal qui passe, etc. Il a fait super attention et il est arrivé jusqu'au palais du roi à nouveau. Et puis, le roi lui pose cette question. Est-ce que tu as vu beaucoup de choses en traversant la ville ? Non, sire, je ne pensais qu'à l'huile et je ne levais pas le nez. Eh bien, maintenant, tu sais comment fuir la tentation. Regarde à Jésus-Christ comme tu as regardé l'huile et tu ne seras plus tenté par les choses extérieures. J'ai aimé cette histoire parce que ça nous montre. Souvent, on est en combat face à la tentation. On est là, on se débat, on ne sait pas comment s'en sortir. Alors que le seul moyen, c'est de regarder, rester fixé sur le Seigneur Jésus. Et toutes les choses, on a des chants qui le disent de manière tellement belle en plus. Toutes choses pâlissent. Mais on ne veut pas seulement chanter le chant, on veut l'expérimenter. Regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur pour pouvoir marcher dans la sainteté. Vous savez, c'est des versets qu'on a lus souvent, mais quand on regarde au Seigneur, on est transformé de gloire en gloire par le Saint-Esprit qui agite en nous. Quand on prend un temps de communion personnelle avec le Seigneur, dans notre chambre, chacun pour notre part, alors le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur, il est en train de nous transformer. Marcher dans la sainteté, comme le dit ce verset, ce n'est pas une option, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez bien que si le Seigneur a permis que ce verset soit écrit, c'est pour quand même nous faire prendre conscience de la tâche. Mais le Seigneur est prêt à nous aider. Plus je vis par la foi avec Dieu, plus je dois me sanctifier. Si ma foi elle augmente dans le Seigneur, mais que je vis de moins en moins dans la sainteté, alors c'est qu'il y a un problème quelque part. Si je suis rempli de l'Esprit Saint, mais que je ne produis pas les fruits de l'Esprit Saint, c'est qu'il y a un problème quelque part. On prend souvent cet exemple, mais combien c'est frappant, et on voit des personnes remplies de l'Esprit, soi-disant, qui parlent en langue, qui apportent des prophéties, mais qui disent des paroles méchantes, ou qui critiquent, ou qui font toutes sortes de choses. mauvaise. Est-ce que c'est ça l'Esprit Saint ?
Non.
Comment l'Esprit Saint peut-il demeurer dans un cœur sanctifié ? Ben c'est pas possible. Il sera attristé, il va se retirer, il va bien sûr essayer de nous mettre en garde, etc., par toutes sortes de circonstances, mais il ne va pas pouvoir rester, à moins que la personne revienne à la première chose indispensable, le sang de Jésus, avec foi. Et c'est comme ça que ça marche. Frères et sœurs, trois choses, toutes simples. Le sang de Jésus, la foi, la sanctification. Est-ce que ce n'est pas peut-être la priorité de notre vie ? Cet après-midi, est-ce qu'on n'a pas besoin de venir devant le Seigneur et de dire « Oui, Seigneur, je veux être ce vase sanctifié ». Vous savez ce que le Seigneur fait des vases sanctifiés ? Il les utilise. Quelqu'un qui choisit de marcher dans la sainteté, le Seigneur va l'utiliser. Je ne sais pas si vous voulez voir Dieu seulement que dans le ciel, c'est bien. Mais moi, je veux voir Dieu maintenant déjà. Merci Seigneur pour ce qu'on vivra dans le ciel de fabuleux, d'extraordinaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, je crois que dans ce moment où on va se recueillir, le Seigneur, il va encore se manifester parce qu'il est tout puissant et parce que nous voulons faire des progrès avec lui. Alors recueillons-nous et prions le Seigneur. Est-ce que nous sommes lassés d'entendre parler de la croix ? Quel malheur si c'était le cas pour quelqu'un. Lassé d'entendre ce beau message de la croix du sacrifice. Quelqu'un peut-être cet après-midi a besoin de s'en souvenir de manière particulière. Faites la prière. Demandez au Seigneur. Renouvelle, Seigneur, cette vision, cette révélation de ton œuvre à la croix dans ma vie. Que je sois continuellement saisi, Seigneur, par ton amour que tu as manifesté là-bas. Quelqu'un peut-être est-il déjà dans la foi, mais il court après un repos qu'il ne peut pas obtenir. Faites confiance au Seigneur. Ceux qui héritent le repos, ce sont ceux qui marchent dans la foi. Et le Seigneur vous demande, mais justement, de faire un pas de foi. Est-ce que Pierre aurait pu marcher sur les eaux sans avoir d'abord sorti de la barque? Est-ce que Pierre aurait pu vivre un miracle fabuleux sans d'abord faire sa part à lui-même, sortir de la barque? Le Seigneur vous demande peut-être de faire quelque chose que vous pouvez faire, et lui, il va prendre le relais. Comme moi, ça a été ce moment où je suis venu à la réunion alors que j'étais fatigué. Mais dès que j'ai obéi, le Seigneur il s'est manifesté. Et souvent, le Seigneur attend que nous puissions faire notre part. La foi, c'est notre part. L'obéissance, c'est notre part. Faire ce que le Seigneur nous demande, c'est notre part. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir Dieu se manifester avec puissance ? Alors marchons dans la sainteté. Est-ce que nous voulons voir Dieu baptisé de son esprit ? Alors marchons dans la sainteté. Si nous voulons voir Dieu guérir les malades, marchons dans la sainteté. Et nous verrons ces choses. Voici, nous dit la parole, les miracles qui accompagneront, qui ça ? Ceux qui auront cru. Et le Seigneur fait toutes sortes de listes merveilleuses de ce qui se passe quand des gens mettent leur foi, oui d'abord dans le sacrifice de Jésus, mais leur foi dans cette vérité que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Merci Éternel pour ces instants. Te bénissons pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu es ce Dieu qui parle encore aujourd'hui. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui avec des paroles simples, est capable de toucher des cœurs. Seigneur, nous croyons, oui, à la puissance de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre, dans cet après-midi en particulier. Nous croyons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui se plaît à appeler les enfants, à appeler les hommes et les femmes qui vont pouvoir devenir ses enfants. Merci, Seigneur, dans cet après-midi, oui, de faire encore retentir cet appel divin et céleste. Merci, Seigneur, dans cet après-midi, de pouvoir, Seigneur, lancer cette voix, cet appel dans les cœurs, Jésus, afin que les hommes et les femmes puissent y répondre, chacun pour leur part. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont besoin simplement de croire dans ton sacrifice. Jésus, touche leur cœur. Ceux qui ont besoin de faire de faire la paix avec toi, d'avoir ce pardon. Touche leur cœur dans ces instants. Ceux qui ont besoin de faire des progrès dans la foi, nous voulons être comme ces disciples qui disaient, Seigneur, augmente notre foi. Mais nous savons, Seigneur, que notre foi passe par cet aspect concret des choses, de mettre en pratique ce que tu nous demandes et de marcher dans ta vérité. Alors oui, dans ces instants, permets-nous encore de faire des progrès devant toi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.